On se projette aux États-Unis maintenant parce que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, y a pas à dire. La semaine dernière a été marquée par ces bombes qui ont été livrées, on va dire engins explosifs, là, qui ont été livrés à toutes sortes de figures marquantes du Parti démocrate notamment. Au total, 13 colis potentiellement explosifs qui ont été envoyés aux quatre coins des États-Unis. Une arrestation qui a été annoncée hier en lien avec ces événements-là. Il s'agit d'un homme de 56 ans du nom de Caesar Sayoc. Je sais pas exactement comment le prononcer.
Sayoc.
C'est un résident de la Floride, un grand partisan de Donald Trump. Et pour faire le point, on reçoit ce matin Éric Arsenault, qui est professeur d'actualité internationale. Prof Arsenault, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Alors, c'est pas la première fois que les États-Unis sont le théâtre de ce qui convient d'appeler là, du terrorisme intérieur. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Il y avait une vague d'explosions de colis suspects assez célèbres. En mars dernier, au Texas, colis suspect qui avait explosé aux quatre coins des États-Unis. 2001, une histoire de courrier empoisonné à l'anthrax qui avait causé la mort de 5 personnes. C'est pas la première fois qu'il y a du terrorisme, là j'utilise des beaux gros guillemets, du terrorisme intérieur aux États-Unis. En quoi cette série d'attaques-là est-elle singulière par rapport aux autres?
Ben, je dirais qu'elle n'est pas tellement différente de celle des autres. Et puis je me permets de rappeler également pour nos auditeurs, Paul Raphaël, une autre affaire de terrorisme intérieur aux États-Unis célèbre, le cas de Unabomber.
Oui.
C'est ce mathématicien un peu cinglé qui, pendant une vingtaine d'années, a littéralement terrorisé les États-Unis parce qu'il envoyait justement des lettres piégées. Il a fait des victimes là-dedans. Ce qu'elle a de différente, je te dirais, cette affaire-là, par rapport aux précédentes, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Et il n'y a pas eu de victime.
Ouais.
Et c'est que, dans le cas qui nous occupe, les engins explosifs qui avaient été envoyés comme ça à des personnalités démocrates ou à des gens critiques de Donald Trump, ces engins explosifs, ils n'ont jamais explosé. Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, c'est parce que la technologie ou les moyens utilisés n'étaient pas suffisants? Est-ce que c'est parce que celui qui serait derrière ces engins explosifs-là ne maîtrisait pas la technique? Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait tout simplement pas, il voulait juste faire peur? Ça, là-dessus, on se perd en conjecture, c'est probablement l'enquête qui va permettre d'y voir un petit peu plus clair.
OK. Et quel lien on a le droit de faire? Parce que il faut jamais sauter aux conclusions trop vite, mais là, la voiture du gars était tapissée de photos de Donald Trump et de Hillary Clinton et de Barack Obama avec des cibles sur le visage. Quel lien il faut qu'on fasse entre le président américain Donald Trump et le Sayoc en question qui est le principal suspect dans cette affaire-là?
Bon, mais je pense que tu as raison de le souligner. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Les motivations réelles de cet individu-là, pour l'instant, sont pas connues. J'écoutais hier la conférence des responsables des services de renseignement aux États-Unis qui refusaient de s'avancer sur cette question-là. Est-ce que la rhétorique souvent enflammée de Donald Trump dans ses discours et ses attaques contre ses adversaires, parce qu'on se rend compte que tous ceux qui ont été ciblés par les colis suspects sont des gens qui, à un moment ou un autre, ont été attaqués par Donald Trump. Est-ce que les propos du président auraient pu inciter cet individu-là à passer à l'action? Est-ce que ça aurait pu être l'élément déclencheur? Moi, je me garde une grande réserve et beaucoup de prudence par rapport à ça, parce que le portrait qu'on a de cet individu-là, Caesar Sayoc, c'est que c'est un personnage qui semble être un peu mentalement instable. J'écoutais son avocat ou l'avocat de sa famille qui racontait hier que ses capacités intellectuelles sont assez limitées. Le gars vivait dans une camionnette. Le gars a un lourd casier judiciaire, plusieurs infractions, dont des histoires de menaces à la bombe. Et oui, comme tu l'as souligné, ça semble être un farouche partisan de Donald Trump. On voit sa camionnette là avec des images,
ah oui,
des décales,
ça,
des autocollants, le tapissé d'autocollants favorables à Trump, puis défavorables aux cibles favorites de Trump, donc les démocrates, CNN. On sait, parce qu'on a vu des images, qu'il a été présent lors de ralliements de Donald Trump. On a vu sur les réseaux sociaux les messages un peu décousus, un peu incohérents, mais où il supporte Donald Trump. Sauf que ce gars-là semble également, à partir de ce qu'on voit, aussi adepte de théories du complot, favorable aux idées de l'extrême droite. Alors, je pense qu'avant d'essayer de faire un lien entre le discours de Trump, qui on le reconnaîtra tous, là, est un discours qui est quelquefois violent, là, c'est de la violence verbale, là, ce que Trump dit à l'égard de ses adversaires, puis les actes et les actions de ce monsieur-là, je pense qu'il va falloir attendre la suite des choses pour en venir à une conclusion.
Mais c'est drôle parce qu'on se parlait il y a deux semaines, Prof Arsenault, puis vous me faisiez état d'à quel point les États-Unis, en ce moment, c'est un pays divisé. Est-ce que ces attaques à la bombe-là sont pas la meilleure illustration de l'espèce de division qui semble maintenant insurmontable, là, irréparable entre la droite et la gauche, les républicains et les démocrates, les pro-Trump, les anti-Trump? T'sais, ça donne l'impression qu'on a comme atteint un point de non-retour.
Ah, t'as parfaitement raison. Puis je te dirais que le fossé qui existe maintenant entre la droite et la gauche est un fossé qui apparaît carrément insurmontable et infranchissable. Parce que de tout temps aux États-Unis, il y a eu des rivalités politiques. Là. C'est pas d'hier là, que démocrates et républicains s'accusent mutuellement l'un et l'autre. Sauf que dans le passé, les démocrates et les républicains, à un moment donné, dans des moments graves dans l'histoire du pays, ont été capables de s'unir, capables de trouver des compromis. Puis on dit toujours qu'un gouvernant, un dirigeant, un politicien, une politicienne, va diriger au centre du spectre politique. Là, on a l'impression qu'aux États-Unis, il n'y a plus de centre. Le centre est disparu. Les républicains sont de plus en plus à droite, et tu vois peut-être la tendance aussi, les démocrates, eux, de leur côté, sont de plus en plus à gauche. Bref, on est en train de se diriger d'un côté comme de l'autre vers les extrêmes. Il n'y a plus de place au centre pour personne. Et quiconque au centre, qu'il soit républicain ou encore démocrate, essaie de tendre la main à l'adversaire, essaie de tendre la main à l'autre côté, essaie de trouver un compromis, va être vilipendé, va être traité comme un traître à l'intérieur de son propre camp. En ce qui fait que d'un côté comme de l'autre, il semble qu'il y a absolument plus de place au compromis. Et on est en train, on parle de polarisation du débat aux États-Unis, mais c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et ça contamine même les médias. Parce que tu regardes, moi je fais l'exercice régulièrement, Paul Raphaël, tu regardes ce qui se fait à Fox News, tu regardes ce qui se fait à CNN, ouais, puis tu te dis, ma foi, on a l'impression que ces deux médias-là, qui sont pourtant des médias sérieux, crédibles, sont en train de décrire deux Amériques qui sont complètement différentes. Ouais. Puis quelquefois, on assiste de part et d'autre à des dérapages. Je dirais que c'est extrêmement troublant actuellement, le climat, le contexte politique toxique, l'environnement dans lequel baignent les Américains.
Est-ce qu'on n'y revoit pas certaines caractéristiques des sociétés qui ont... Puis là, je veux pas être alarmiste, là, mais est-ce qu'on y voit pas des caractéristiques de sociétés qui ont abouti à dans des guerres, des sociétés extrêmement divisées sur des questions qui viennent nous chercher au plus profond de nous-mêmes? Ça a donné des affaires comme des guerres mondiales, la guerre froide. Y a-t-il un moment où ça va arrêter? Est-ce qu'il y a un moment où on va se dire, OK, finalement, on est capable de rétablir... C'est-tu les élections de mi-mandat, peut-être, le moment où les choses pourraient basculer?
Ça m'étonnerait beaucoup pour te dire la vérité. Mais on n'a pas besoin de remonter si loin dans l'histoire. Les États-Unis ont connu dans le passé de profondes périodes de division. Pensons à la guerre du Vietnam. Puis, je ne vais pas remonter aussi loin que ça, mais à la guerre de sécession aux États-Unis, la société américaine était profondément divisée. Tu vas me dire, oui, ça a viré en guerre civile à cette époque-là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui est en train de se produire aux États-Unis. Sauf que, dans ces moments de très grande division, ça prend un personnage, ça prend quelqu'un pour s'élever au-dessus de ça. Ça prend une classe politique, et je parle pas juste du président, mais ça prend une classe politique qui est capable de s'élever au-dessus de là, puis qui est capable, justement, à un moment donné, d'essayer de rassembler puis de ramasser tout le monde. Or, le personnage qui est actuellement à la Maison-Blanche n'a pas nécessairement l'ADN du rassembleur. On le voit, et Donald Trump est souvent critiqué pour ça, c'est un personnage qui divise profondément les États-Unis, et on a l'impression que Donald Trump, pour asseoir son pouvoir, c'est de diviser pour régner. Alors, on n'a pas cette espèce de personnage-là, rassembleur, même si cette semaine, d'ailleurs, c'était un peu surréaliste de l'entendre appeler à l'unité, puis qu'il fallait baisser le ton, puis alors que c'est l'un de ceux qui contribue justement à cette polarisation du débat public aux États-Unis. Mais ça prend, au-delà du président, une classe politique également qui va s'élever au-dessus de la partisanerie, puis qui va être capable, à un moment donné, de dire, wow, un instant, là, rassemblons-nous, là, ça allait trop loin, là, ça dérape, là, on est en train de partir dans le champ, alors rassemble-nous au centre. Actuellement, aux États-Unis, je ne vois pas ces éléments rassembleurs-là qui pourraient permettre de ramasser ou de recoller un peu les pots cassés. Et ça m'étonnerait beaucoup que les élections de mi-mandat qui s'en viennent là, dans moins d'une dizaine de jours vont permettre de changer un peu la dynamique.
OK, merci Professeur Arsenault d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Très éclairant.
C'est toujours un plaisir. Salut, bonne
semaine. Bon samedi, au revoir. Éric Arsenault, qui est prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière, aussi notre spécialiste maison en actualité, en politique américaine.